Quelqu'un qui, comme moi, est toujours fourré au musée des automates, par exemple, ben, on n'est pas sérieux, quoi, parce que ce qui est sérieux, c'est Calder. Et le mouvement, ça, oui, mais quand ça fait du bruit et que ça tressaute, etc., ça, c'est pas sérieux. Voyez? Donc, il y a eu un moment, il y a eu un clivage du savoir, on s'est spécialisé. Les surréalistes récusent ce nouveau partage, ce partage établi dès le XVIIIe siècle et qui cantonne les regards. Hein. Il y a un regard pour les arts, il y a un regard pour les sciences, il y a un regard pour les machines. Je suis ingénieur, donc je ne suis pas Matisse, au moins, avait cette idée de dire, ben moi, je fais de la peinture pour que l'ingénieur puisse se reposer et regarder quelque chose qui l'intéresse. Tinguely ne pensait pas déchoir quand il allait prendre des roues dans la fabrique Rolls, qui venait de faire faillite et qui lui a laissé un certain nombre de roues, ou quand il allait dans les déchats. Bon, je ferme la parenthèse, je voulais pas aller si loin. Mais le cabinet de curiosité surréaliste, enfin plutôt les surréalistes, réinventent le cabinet de curiosité. Hein. Et j'en prends cet exemple parce qu'au fond, il a servi. Vous voyez, il a servi pour la couverture du catalogue de Margit Rowell. Vous voyez en bas, hein, cette chose un peu à l'envers, là, on ne sait pas trop ce que c'est, réduit à un signe, artialisé, rendu artistique, si vous voulez, graphique, c'est-à-dire au fond détruit. Ben, c'était ça. À gauche, vous voyez, hein. C'est l'objet du couchant, une sculpture extraordinaire qui est au centre Pompidou, de Miro. Hein. Et cette sculpture est extrêmement intéressante puisque c'est un tronc d'arbre de caroubier, donc d'arbre qui est lui-même rouge mais qu'il a repeint en rouge. Et qui présente, bon, s'appelle l'objet du couchant. Alors on peut gloser à l'infini. On voit qu'il y a des ressorts de sommiers, hein, voyez. Et puis il y a également des cordes qui peuvent figurer les tresses de la jeune femme dont il s'agit de lui offrir. Une couche, hein, l'objet du couchant. En même temps, moi, j'ai mis dans le bouquin sur la grande galerie des sculptures, mais comme j'avais pas à me justifier, on est en 36, commence la guerre d'Espagne. Et l'objet du couchant, c'est aussi l'idée, le couchant, c'est l'Ouest de l'Europe. Et là s'ouvre aussi quelque chose qui, pour Miro, représente une déchirure terrible. Alors, il y a effectivement une référence sexuelle, mais il y a aussi, avec ce rouge, l'idée d'un conflit meurtrier et d'une mère patrie qui va souffrir. Donc, on voit bien que dans l'objet du couchant, il y a l'objet naturel, hein, l'objet mécanique, c'est aussi une sculpture. Etc. Et donc, elle incarne à sa manière une reviviscence du cabinet de curiosité. Et quand on regarde, comme je vous le montre à côté, un des Balouba, magnifiquement nommé, hein, de Jean Tinguely, Balouba, ça s'écrit Balouba. Ça venait c'était un hommage à ce leader africain. Lumumba, Patrice Lumumba, qui avait été assassiné. Et donc, il y a aussi une référence, évidemment, à l'Afrique. Et c'est un moteur qui va agiter, vous voyez, un certain nombre d'éléments très fortement colorés. On voit bien que Tinguely se positionne avec cette machine sculpture ou cette sculpture machine dans une sorte de continuité du cabinet de curiosité également des surréalistes. Voilà, alors c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, qui était là. Alors la deuxième réinsertion, la deuxième réintégration, c'est, et je vous montrerai que ces réintégrations, elles ne sont que partielles, hein, que le rêve d'Apollinaire, qui était ce rêve d'avoir des machines, d'avoir des sculpteurs qui osent des couleurs, qui osent du feu, qui osent des choses comme ça, qui osent du verre, eh bien, il a été que partiellement entendu et réalisé ce rêve jusque dans les années 70, en gros. Et on peut dire que, alors c'est pas parfait ce que nous avons depuis encore. Surtout quand ça part dans un intellectualisme au fond qui nous déroute, hein. Mais on voit bien que tout de même, parce que le rêve du sculpteur, c'est un rêve comme celui d'Apollinaire d'ailleurs, qui s'intègre, qui s'incarne dans des prises de position avec des matériaux sociaux. Le sculpteur doit franchir la porte de son atelier. Il doit aller voir d'autres secteurs de la vie sociale. Il doit aller à l'usine. Il doit aller, quand je dis il doit, évidemment, il doit rien. Il fait ce qu'il veut. Mais on comprend que pour eux, c'était cette idée que l'art ne devait pas se refermer dans sa convention, mais bien s'ouvrir à des domaines tout à fait différents. Alors, deuxième réintégration, celle de la machine sous deux formes. D'abord, celle du mouvement réel. Oh, je vais pas redévelopper, mais ça fait une assez jolie série. Nu descendant d'escalier, 1912, Duchamp. Formes uniques. Dans la continuité de l'espace, Boccioni, 1913. Et 1920, Standing Wave, ou sans titre, si vous voulez, untitled, la première sculpture cinétique revendiquée comme telle, Naum Gabo, le russe, donc Gabo. 1920, c'est simple, c'est une tige verticale qui est animée par un bruiteur, par un truc de sonnette, qui fait bouger la tige et qui constitue un volume virtuel. C'est-à-dire, c'est tout bête, mais vous avez une droite qui, tournant dans l'espace, va créer un volume, et comme d'habitude, tout ce qui est simple est extraordinairement fort, hein, bien sûr, parce que Naum Gabo trouve les choses. Alors, c'est pas le premier à avoir imaginé ça. Il faut quand même rendre à Archipenko, l'Ukrainien Archipenko, son invention. C'est lui le premier à s'être intéressé au potentiel dynamique de l'espace. Je le cite. Il avait fait, alors malheureusement, elle est perdue. Archipenko, à un moment donné, a tout balancé à la Seine. Il y a un certain nombre de sculptures qui étaient perdues, surtout que c'était toujours des matériaux assez fragiles. Et en 1912, il a réalisé une sculpture qui s'appelait Medrano. Ah, ça, moi, j'adore ça, évidemment, c'est le cirque, hein, c'est la référence au cirque. Et alors, malheureusement, ce que je vous montre, c'est Medrano 2. Puisqu'il l'a refait, mais la première, c'est la première avec un bras qui était mobile, qui bougeait. On le voit un petit peu, il est en relief. Voilà ce que dit Archipenko après. Depuis 1912, à Paris, j'ai cherché à incorporer le mouvement réel dans une œuvre d'art, et dans ce but, j'ai exécuté la construction animée nommée Medrano. Cependant, ces tentatives ne rendirent jamais l'effet désiré. Je m'occupais encore de cette idée en 1922 à Berlin, mais c'est seulement à New York, en 1924, que j'ai réussi, après de nombreuses expériences techniques, à réaliser mon but. C'est Duchamp qui, développant son idée de la roue de bicyclette, ajoutant un moteur, va réaliser en 1920, donc juste après Naum Gabo, cette fameuse rotative plaque verre ou rotative demi-sphère, et ensuite, que vous voyez tourner, mais en fait, il faut que je vous montre ça, vous voyez, il s'agit de pales distinctes qui, mises en mouvement, vont constituer là aussi un volume virtuel, puisque ça va vous donner l'impression d'avoir une demi-sphère. C'est parce que vous mettez en rotation, pour le plaisir et pour certains, j'ai mis aussi l'une des pièces qui est totalement référée à Duchamp de Marie-Ange Guilleminot, qui s'appelle La Rotateuse, qu'on voit de temps en temps en fonctionnement, parce que le problème de ces machines, vous êtes aperçu que ça demande de l'entretien. Hein, c'est des machines, c'est comme la salade de Anselmo, il faut de temps en temps la renouveler et surtout pas la mettre en plastique parce que dans ce cas-là, là, on triche et on déçoit la pensée du sculpteur et son rêve. Alors évidemment, changer la salade tous les deux jours, c'est un peu difficile. Donc vous voyez cette chose-là. Et Duchamp va ensuite, que vous voyez là, présenter, c'est ce que vous voyez à droite, au concours Lépine de 1935, c'est-à-dire au concours d'inventeurs. C'est ça qui est intéressant parce que les sculpteurs ne revendiquent plus seulement le fait d'être jugés par leur père, ils ne revendiquent plus seulement la possibilité d'être jugés par le public, au salon par exemple, mais ils déposent des brevets d'inventeurs. Il revendique, on dit souvent, c'est Fabrice Hibert qui a été le premier à aller dans l'industrie, mon œil. Il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait avant et ça n'enlève rien à Fabrice Hibert. Il y a d'autres qui ont essayé d'aller construire des choses avec l'entreprise. Mais Duchamp et Tinguely, lorsque Tinguely invente les machines à peindre, il dépose un brevet d'inventeur. L'artiste ne va pas se sentir dévalorisé parce que il n'aura pas un prix des beaux-arts, mais un diplôme d'inventeur. Bon, ceci étant, il a pas vendu un seul de ses rotoreliefs hein, en 1935, et puis il n'a pas eu le concours il n'a pas gagné le concours. Mais enfin, ça fait rien. Bon. Deuxième point dans la machine, l'esthétique de la machine. Hein, on a vu le mouvement réel, mais bientôt se met en place une esthétique de la machine qui souvent d'ailleurs ouvre sur le cinéma. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui doit vous étonner parce que c'est évident que ces machines, notamment par leur spectacle Light and Space, si on veut, Licht und Raum, va permettre d'enregistrer une image dynamique. Alors pensez au film de Fernand Léger, Ballet mécanique de 1924. Mais voyez ici cette sculpture tout à fait importante qui s'appelle le modulateur espace-lumière, réalisé par le Hongrois Laszlo Molonoch. 1922-1930, voyez que cette machine qui tourne sur elle-même avec des éclairages d'ampoules va projeter sur les murs, et ceux qui l'ont vu fonctionner s'en souviennent, elle projette comme une lanterne magique un ensemble de formes animées sur les murs latéralement. Donc ces liens avec le cinéma, je n'ai pas le temps de les développer, mais ils sont tout à fait importants. L'esthétique de la machine, elle va par exemple évidemment aboutir à cette pièce magnifique de Alberto Giacometti qui s'appelle « Main prise au doigt ». C'est une pièce de 1935 et qui a un procédé que Tinguely ensuite développera, mais à la place de cette main qui est prise à son doigt, vous voyez, c'est quand ça tourne, le doigt avance et il est pris dans l'engrenage, une sorte de métaphore mécanique, mais chez Tinguely, ça deviendra transitif, c'est-à-dire que la main finira par agiter une machine qui, elle, produira un dessin, vous voyez. Mais on a, c'est comme si, évidemment, c'est facile à dire, c'est comme s'il y avait il se donnait la main. Si vous voulez, il y avait une transmission de Giacometti à Tinguely. Et la troisième réinsertion ou réintégration, c'est bien sûr l'art populaire. Alors, là aussi, je ne développe pas parce que le temps passe, mais vous savez que il y a notamment avec ce souci de l'œuvre d'art total, de l'intégration du théâtre dans la sculpture, chez des artistes, et même dans la peinture, d'une certaine façon, chez des artistes comme Paul Klee. Là, je vous montre, bon, c'est un cliché qui est moyen, mais je vous montre toute la collection de marionnettes réalisées pour son fils par Paul Klee. Vous les voyez d'ailleurs au musée à Berne, hein. Il avait fait donc cette collection, et pour lui c'était aussi important que pour André Breton sa collection de poupées Cachina, par exemple, pour les surréalistes, qui n'avaient pas l'impression du tout que c'était un art mineur, mais quelque chose de très important, hein. Bien sûr, dans un genre très différent, on voit que Hans Bellmer, dès 1936, réinvestit la question de la poupée. Avec cette poupée articulée qui va être elle-même le support d'un certain nombre de photographies. Je crois qu'il faut toujours que vous pensiez à la sculpture en termes de transitivité. Il n'y a pas seulement ce que la sculpture donne à voir, il y a ce qu'elle fait. Et la sculpture provoque de la photo, la sculpture crée. C'est comme Alors inversement, il y a certaines sculptures comme celle de Man Ray, qui ne sont pas faites pour être des sculptures, elles sont faites que pour être des photos. Vous voyez, présenter l'énigme d'Isidore Ducasse, vous savez, cette chose, on ne sait pas ce que c'est, qui est sous une couverture, ça n'a pas de sens, puisque Man Ray l'a fait précisément pour faire une photo et pour que ça reste énigmatique. Mais évidemment, le marché crée ces objets, parce que les objets, ça se vend. Mais beaucoup d'artistes, justement, ont essayé de montrer que ces objets sont transitifs, c'est-à-dire qu'on les traverse, hein. Et j'avais évoqué la dernière fois, bon, je crois que le temps passe vraiment trop, je n'ai pas le temps de développer non plus, mais la constitution, à partir de 1948, de la Compagnie de l'Art Brut. La première exposition, c'est à la Galerie Drouin en 1949, qui présente Chessac, qui présente tous les grands de l'art brut que vous connaissez. Les sculpteurs, c'est Auguste Forestier, par exemple, hein, extrêmement important, des silex peints de Juva, les fameux barbus Muller, qui est un jeu de mots de Dubuffet sur les barbiers Muller, mais qui a beaucoup de sens, puisque Barbier Muller, c'était une grande collection d'art africain et océanien. Donc, prendre des sculptures qui sont des sculptures... On ne sait pas très bien ce que c'est, d'ailleurs, ces barbus. Ce sont des sculptures post-médiévales, on ne sait pas, en tout cas primitives, que Dubuffet absolument adorait. De même qu'il adorait, je vous l'ai dit, présenter les masques du Löwenstahl, ces masques qui étaient faits par les bergers des vallées des Alpes et qui s'en inspiraient pour ses propres marionnettes. Et puis il y avait ce personnage, comme j'ai un de mes étudiants qui est en train de terminer sa thèse sur Dubuffet, alors j'ai quelques images, comme ces œuvres de Parguet, qui était en fait un ouvrier qui utilisait ses propres outils. Alors là, je serais même incapable de savoir ce que c'est comme outil, et qui, les sculptant, en faisait disparaître totalement la lisibilité et, bien sûr, l'utilité. Et alors, mon dernier point, le dernier point de cet exposé, c'est de montrer que ces réintégrations du fétiche, je caricature un peu, mais il faut dans un exposé, de la machine et de l'art populaire dans la sculpture moderne, par la sculpture moderne, sont souvent ressentis comme problématiques, sont souvent partielles, je le disais, et parfois même sont sentis comme de véritables sorties de route. Voyez, pour le des gens comme Witkower, ou des gens comme même Carola Gideon-Welker, la bonne sculpture, c'est ça. C'est-à-dire, si j'essaye de résumer, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais c'est, on part de la sculpture classique, vous voyez, un Julien, ça je l'ai mis aussi dans ma grande galerie des sculptures, parce que, à peu près pareil, c'est-à-dire parce que je fallait que je choisisse une sculpture du Louvre, une sculpture d'Orsay et une sculpture... Ça, c'est assez plaisant à faire. Hein, vous avez carte blanche, vous vous baladez dans les musées et tout ce qu'on vous dit, c'est vous faites comme Pérec, vous vous fixez vous-même une règle. Moi, je m'étais fixé la règle qu'il y aurait toujours au moins une sculpture, parce que ça avait été fait aussi pour la peinture, la Grande Galerie des peintures. Mais je m'étais dit, à chaque fois, il y en aura une de chacun des musées. C'était la seule règle. Et on raconte une histoire de sculpture à partir de là. Et là, c'est la forme. On voit bien que chez Julien, dans ce gladiateur mourant, il y a une stylisation qui est tout à fait remarquable. Il connaît bien le corps, ça, il le connaît bien. Mais ce qui l'intéresse, c'est que le bouclier est un cercle. Le bouclier est un cercle, que le genou et l'autre, il est agenouillé, forment deux triangles. On voit bien que la position du bras va fermer la composition. Donc, il cherche en même temps une géométrisation de la figure. C'est évident. Hein, dire que quelqu'un du XVIIIe siècle ne s'intéressait qu'à l'anatomie, c'est une stupidité. Il construisait aussi, tout à fait. Maillol, vous l'avez déjà vu, je crois que c'est très clair. Mais Katarzyna Kobro. Katarzyna Kobro, si vous regardez la sculpture constructiviste, si vous regardez un Naum Gabo, un Pefsner, je ne les ai pas montrés ici, ce sont les grandes idoles par exemple, Herbert Ried ou autres des années 60-70, parce qu'ils continuent à privilégier la forme. Alors, ils sont passés au métal, mais ça reste géométrique, ça reste très équilibré, ça reste assez muet, ça ne grince pas. Il n'y a pas des plumes partout. Vous voyez, ça reste quand même assez clean comme voie de la sculpture. Évidemment, ce n'est pas ça. Ça, plus difficile. Hein. Tête de taureau. Alors, je vais dire la chose suivante, rapidement. C'est beaucoup de ces sculptures modernes, quand elles réintègrent le fétiche, comme ici est l'objet de consommation, sont sanctionnées soit par le grand public, soit et... ou, hein, soit par les artistes eux-mêmes, soit par les galeristes, soit par les analystes et par les historiens. Donc je vais montrer quelques cas. Premièrement, celui-ci, cette pièce, Tête de taureau, elle est exposée au Salon d'automne en 1944 à la Libération. C'est une exposition qui s'appelle Hommage à Picasso. Il y a 5 sculptures. Quand même, en 1944, Picasso, c'est un artiste extraordinaire. Il a résisté aux Allemands, il a refusé leur bois et leur charbon en disant « un Espagnol n'a jamais froid ». Bon, c'est quelqu'un. Eh bien, les gens, y compris les jeunes gens, il faut bien le dire, voient l'exposition, font une émeute, crient « remboursé », c'est scandaleux. Hein, et notamment, ils n'ont même pas osé, dans le catalogue, j'ai vérifié, ils n'ont même pas osé appeler sa tête de taureau, ils l'ont quand même prudemment appelé celle de bicyclette. Hein. Bon, pour ne pas tricher, mais on ne veut pas passer quand même pour... voilà, bon, premièrement. Deuxième cas, hein, vous connaissez cette sculpture extrêmement célèbre de Man Ray, qui s'appelle... aujourd'hui, dirais-je, ça c'est celle de 1958, la réplique, elle s'appelle Objet indestructible, et c'est la réplique d'un objet de 1923 qui s'appelait Objet à détruire. En 58, Man Ray, qui était peut-être plus quand même le surréaliste révolutionnaire des débuts, mais un homme qui arrivait en Rolls-Royce, un peu comme Dali, vous voyez, à la fin. Bon, je comprends que ça ne plaisait pas aux jeunes gens. Hein, qui... Alors, les jeunes de l'école des Beaux-Arts, chiche, objet à détruire, paf, ils le détruisent. Hein, 58. Hein. Du coup, c'est bien connu, Man Ray leur fait un procès, s'arrange quand même que quand ils sont condamnés pour lever sa plainte, de toute façon à ce qu'ils ne soient pas emprisonnés ou quelque chose comme ça, mais se sert de ça pour se faire rembourser par l'assurance. Et l'assurance lui rembourse un métronome. Alors là, il proteste, il fait un procès. Ben oui, c'est le problème, c'est ça. Quelle est la valeur ajoutée de l'artiste ? Et c'est comme ça qu'on gagne l'histoire de, enfin, comme les artistes gagnent devant la loi. C'est la même chose que le fameux oiseau de, vous savez, de Brancusi. Il y a eu ce procès Brancusi contre les douanes américaines. Douanes américaines disaient quoi? C'est de l'importation de métaux précieux. Donc on paye la taxe. Brancusi n'était pas là, mais ses amis Duchamp, Ezra Pound disent c'est de l'œuvre d'art, donc ça doit être ça doit pas être considéré comme ça. Donc il y a un procès et le juge Kenneth White, très important pour nous, hein, le juge, vous pouvez regarder ça quand même dans le catalogue de 86, parce que j'ai Dirk Margit là. Bon, c'est vrai que l'ensemble est assez pas pensé, mais les textes sont. Il y a tout un ensemble qui est quand même très très bien. Et vous avez tout le procès, hein. Et voilà. Alors là, c'est un procès. Alors c'est très intéressant parce que finalement, il réussit à se faire rembourser beaucoup plus. Et il refait l'œuvre et cette fois-ci, il l'appelle objet indestructible. Hein, bon, évidemment. Il y a un autre objet, c'est assez amusant, je ne sais pas si j'ai le temps, mais qui s'appelle Boardwalk, qui est en fait un échiquier, qui veut dire une promenade. Et les étudiants tirent dessus au revolver. Hein. Du coup, il y a des balles dedans. Et ça, on le récupère. Et pareil, Man Ray se fait rembourser aussi par l'assurance. Et alors, l'assurance, comme là. Là, l'objet était détruit, mais Boardwalk, il y a des balles dedans. Et l'assurance réclame, si votre voiture est détruite, l'assurance vous rembourse, mais elle vous demande la voiture. Hein? C'est comme ça. Et donc, elle demande le Boardwalk. Et Man Ray dit non. Je la garde parce que maintenant, ça a beaucoup plus d'intérêt sur le plan artistique. Parce que c'est cet enrichi. Sur le plan symbolique, de toute l'histoire de cette réception, etc. Et il réussit quand même à garder l'œuvre tout en se faisant rembourser. Évidemment, il s'en sentir pas mal, quoi. Mais il a fallu se battre. Et en fait, il l'a gardée, l'œuvre, parce qu'elle est plus intéressante de son devenir que ce qu'elle était au départ. Bon. Deuxième, parfois, les artistes eux-mêmes prennent peur de leur audace. L'exemple le plus fameux, c'est cette œuvre qui date de 1914-1915 de Jacob Epstein. Ça s'appelle The Rock Drill, donc la perforatrice ou le marteau-piqueur, comme vous voulez, ce qui brise le roc. Vous voyez donc une reconstitution à gauche. De ce qu'avait pensé Epstein, c'est-à-dire qu'il avait fait une espèce de monstre machinique et il l'avait installé sur un marteau-piqueur, ce qui fait que les lignes bougeaient et la sculpture était effectivement en mouvement. Et Epstein raconte dans son autobiographie que cette chose l'avait énormément troublé et qu'elle lui était apparue contre-productive par rapport à la sculpture, qui lui devait lui, qui disait-il, et il était revenu au paradigme winckelmannien, la sculpture doit suggérer le calme, la méditation. Et donc il a supprimé ce qui fait que le commissaire qui a fait ça, en fait, il est revenu à un état antérieur récusé par l'artiste. Et il en a fait ce bronze que vous connaissez, où il n'y a plus le marteau-piqueur, où il n'y a plus le rock drill. Donc les artistes eux-mêmes, parfois, prennent peur vis-à-vis des audaces machiniques. Maintenant, les galeristes. Je vais vite. Non, j'ai pas encore les galeries. Ça, c'est pour évoquer, mais rapidement, les débuts de Calder. Calder, au départ, en 29-30, les premiers mobiles sont mécanisés. Ils ont un moteur. Faut le savoir, on ne le sait pas assez. Vous voyez ces choses que je vous montre, le pantographe, par exemple, à droite, ici, c'est une boîte, et il y a à chaque fois un moteur. Et Calder revient en arrière pour faire bon, les gravitations, les mobiles que vous connaissez. Et il renonce au moteur pour des tas de raisons, et sans doute bonne pour lui, hein, mais en tout cas, il a ce recul vis-à-vis de la machine. Parfois, ce sont les galeristes qui lâchent les artistes quand ils leur paraissent aller trop loin dans une forme d'association de la machine, de l'art populaire et même du fétiche. L'exemple le plus fameux, vous le trouverez dans l'entretien que Catherine Millet a eu avec Denise René, la regrettée Denise René, un magnifique ensemble. Si vous voulez avoir des choses sur ces années les 50 à 70, vues du point de vue d'une galerie, c'est absolument extraordinaire. Et Denise René, qui a fait la première exposition consacrée au mouvement, 1955, ça s'appelle Le Mouvement, vous l'avez à gauche, et qui présentait des œuvres de Tinguely, mobiles, a vraiment évolué par rapport à Tinguely, qu'elle a vraiment soutenu au début, quand Tinguely faisait ses moulins à prières, qui étaient d'ailleurs des mises en trois dimensions de ses premiers dessins que vous voyez là-haut. Donc ce sont des sortes d'horloges, il disait, la machine est mon châssis, mais j'expose des peintures. Ce sont des peintures qu'il appelle Meta Malevich, Meta Kandinsky, Meta Herbin, que vous avez à droite. Bon, je passe vite. Elle le soutient également, même quand il passe à l'ennemi, c'est-à-dire il passe chez Iris Claire, et quand il fait ses fameuses machines à dessiner. Donc 54, c'est les métamécaniques et les premières machines à dessiner. Et 1956, ce sont les machines à peindre, à chaque fois avec des brevets qui sont déposés. Avec ces extraordinaires, moi mes préférés, c'est ces séries où la forme est totalement... vous voyez, là, vous aviez encore les formes, le méta Herbin, le méta Kandinsky, le méta Malevich. Il y a une référence à la peinture qui est mise en mouvement par Tinguely, mais là, vous voyez que les éléments, ce sont des découpes, il ne reste plus que des morceaux, et ça s'appelle des amorphes, hein, espèce de refus de la forme. Elle le soutient encore lorsqu'avec son ami Yves Klein, il réalise cette œuvre qui est une machine extraordinaire. Il y en a deux d'ailleurs qui s'appellent la perforatrice de l'espace, et puis dans une exposition qui s'appelle Vitesse pure et stabilité monochrome, mais, et là vous verrez, elle le descend en flèche et elle le chasse de sa galerie dès que Tinguely se met à faire des machines qui sont aussi des fétiches. Et ça, c'est le ballet des pauvres. Bon, je ne ferai pas l'injure à Denise René de penser que c'est parce qu'il y a un message social qu'elle met Tinguely dehors, mais il y a à ce moment-là un blocage, je crois, psychologique, esthétique. Elle pense que Tinguely sort de ce qui était l'esthétique même qu'il avait développée. Peinture avec machine, machine créatrice, d'accord, mais ces espèces de haillons, cette sculpture rituelle, ça ne lui allait pas du tout. Hein. Elle préférera, par exemple, Paul Bury, beaucoup plus calme, mais beaucoup plus aussi. On n'a pas le temps, mais quand même très intéressant aussi, parce que chez lui, le mouvement est tellement lent qu'on a l'impression d'avoir affaire à des statismes. Et pour autant, on est toujours dans le. Alors, enfin, je termine. Hein, encore 5 minutes de patience. Je termine en disant que. De même, ces réintégrations sont souvent questionnées par les analystes et par les historiens. Je cite un texte de Gindertal, un des grands critiques de la revue Art d'aujourd'hui, janvier 1951. C'est un numéro spécial sur la sculpture. Son texte s'appelle « Du côté de Dada et du surréalisme ». Voilà ce qu'il dit. Alors, j'essaye de l'illustrer en image, mais je n'ai pas tout retrouvé. « Nous allons nous heurter, » dit Roger Van Gindertal, « nous allons nous heurter, en 1951, plus souvent à des actes, » il met ça en italique, « à des actes tirant leur efficacité d'une objectivité tridimensionnelle posée dans l'espace, mais qui ne sont pas de la sculpture. » Ah, on retrouve l'idée de distinguer. Hein. Alors, quels sont ces actes? D'ailleurs, ce n'est pas faux ce qu'il dit, mais de là à en arriver à l'idée que ce n'est pas de la sculpture. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il met là-dedans? Les mécaniques inutiles. Je pense qu'il pense à ces choses assez peu connues, mais très importantes, qui ont été formatrices pour Jean Tinguely, qui sont les machines inutiles de Bruno Munari. Bruno Munari était un artiste de Milan et qui avait fait ses premières machines, machines inutiles. Les ready-made de Marcel Duchamp et ses machines, alors je pense évidemment, parce qu'elle est très fétichiste, à Why Not Sneeze, Rose, c'est la vie. Pourquoi ne pas éternuer Rose, c'est la vie, qui est véritablement une démarche critique par rapport à la sculpture, puisque vous voyez une cage à oiseaux sans oiseaux, avec à l'intérieur des petits blocs de marbre, mais vous ne savez pas que c'est du marbre, une sorte de manière de casser la sculpture de marbre. Vous pensez que c'est très léger, que ce sont des morceaux de sucre. La sculpture est très lourde. Donc vous avez une sorte de hiatus entre ce que vous voyez et ce que vous expérimentez. Et puis, quand même, pour faire plaisir à l'oiseau qui est absent, eh bien, il y a voyez, un os de sèche pour qu'il se fasse les dents. Mais on est là vraiment dans le fétiche. Ça, ce n'est pas de la sculpture pour monsieur de Van Gindertal. Par ailleurs, un bon critique. Il n'aime pas non plus la marionnette robot de Sophie Teuber, hein, que j'illustre ici. La boule de verre et la sculpture en liège de Man Ray. Ça, je n'ai pas bien trouvé, mais il faudrait que je cherche. L'ultra-meuble, alors ça, on le connaît, mais je n'ai pas eu le temps de mettre l'image. L'ultra-meuble de Seligman. Et jusqu'au déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim. Alors ça, vous connaissez par cœur. 1936, hein, que je vous montre ici à gauche, sculpture qui est un objet de transsubstantiation, comme disaient les surréalistes et Dali notamment, c'est-à-dire un objet qui a changé de matière, c'était une porcelaine, ça devient une fourrure. Selon l'histoire, elle était en train, Mérette, de prendre son café avec Picasso et il parlait de la sculpture, de son avenir. Et elle lui parlait, Picasso, je crois, disait, ce serait bien de changer les matières, de les transformer, etc. Et Meret Oppenheim lui aurait dit, oui, comme votre tasse, la tasse que vous portez à vos lèvres, ce serait bien qu'elle soit en fourrure, qu'elle fût en fourrure. Et là, paraît-il, Picasso n'a pas bu le café. Hein. Et donc, elle a fait ensuite cette sculpture, qui est évidemment... qui a un érotisme tellement fort que même Picasso, comme ça un peu littéralement, l'avait refusé. Et enfin, dit-il, qu'il n'est pas de la sculpture, le phonographe de Dominguez, que vous voyez ici in situ dans l'exposition de 1938, avec cette fameuse voix de son maître, vous savez, le phonographe, et avec des jambes de femme qui ont l'air de disparaître à l'intérieur de la... je crois que ça s'appelle le pavillon, hein, qui sont là-dedans. Alors, ça, j'ai peut-être pas le temps, hein. Non, j'ai sûrement pas le temps. Alors, une dernière chose qui me... Alors, par exemple, c'est aussi Herbert Reed, qui ne considère pas comme de la sculpture, dans son Modern Sculpture 1964, diverses méthodes faciles d'assemblage. C'est quand même les costumes de Picasso pour parade. Ça, ce n'est pas de la sculpture non plus. Ouais. C'est des choses qui sont portées, mais c'est du décor. On constate également que dans toute cette... alors là, je vais résumer, je n'ai pas le temps de lire. Dans toute cette période des années 60, où on écrit la sculpture, 50-60, Benjamin Buclot a montré qu'il y a évidemment en filigrane le spectre de la guerre froide. Parce qu'on s'aperçoit qu'on ne fait pas une histoire complète, en particulier les artistes russes, les artistes constructivistes comme Tatlin ou autres, ne sont pas crédités. Et on dit que c'est Calder, l'Américain qui a inventé les sculptures, les premières sculptures flottant dans l'espace, hein. L'idée, chez Edward Trier, par exemple, l'allemand, Modern Plastic, 1954, Calder est le premier à proposer l'idée d'un objet flottant librement dans l'espace. Alors, non seulement il n'avait pas lu comme il faut Alfred Barr, 1936, alors Alfred Barr montre très bien que l'esthétique de la machine, ça c'est dans son catalogue Cubism and Abstract Art, 1936, il montre bien esthétique de la machine et il la réfère bien, vous voyez, au constructivisme. Donc, et puis il n'a même pas lu Carola Gideon-Welker qui fait allusion à Tatlin. Où il, est-ce que, alors selon Benjamin Bushlow, il l'a peut-être lu, mais il oublie de le mentionner. Car, là, vous le savez, l'histoire de la sculpture s'écrit aussi sur le plan idéologique. Et la sculpture est idéologique. Hein. Donc on voit très bien que là, tout ça est gommé. Hein. Pourtant, alors, inversement, du côté soviétique, hein, du côté des pays socialistes, on dénonce. Non, j'ai pas le temps d'aller. Voilà. On dénonce de l'autre côté la création de fétiches occidentaux. Fétichisation de l'objet chez les artistes surréalistes. Mais même Tinguely en prend plein son. Dans les Izvestia, en 62. Il vient de faire ce que vous avez à droite. Le projet pour l'étude pour la fin du monde numéro 2. Il y en a eu une première à Copenhague, au musée Humlebæk, où il a fait griller des colombes, ce qui lui a valu. C'était pas de sa faute. Il y avait l'idée, parce que c'est toujours très scénarisé, ces sculptures autodestructrices. Il y avait un moment où la cage devait s'ouvrir, les colombes sortir, c'était la paix. Qui arrivaient, manque de peau, ça s'est pas ouvert et elles ont été grillées et les malheureux Danois l'ont coffré pendant quelques jours parce que bon, ils aimaient pas bien qu'on sacrifie ces malheureuses colombes. Mais là, ce sont les Soviétiques, ils sont furieux parce que on est 62, pensez-y, on est en plein dans la crise des missiles de Cuba, donc la guerre froide est là et les sculpteurs Tinguely fait, dans cette étude, à Las Vegas, il fait exploser une série de sculptures. Vous en voyez une un peu à droite qui va sauter ensuite, qui est la Terre, elle est bleue. Hein. Donc c'est l'idée. Il fait d'abord sauter un frigo. Ça, c'est assez amusant. C'est la fin de la société de consommation. Hein. Donc il est très critique vis-à-vis, il fait ça aux États-Unis, il est très critique. Hein. Chao Guoqiang, lorsqu'il faisait ses explosions, il se réfère à Tinguely. Hein. Et il a même fait une explosion à Humlebæk, c'est-à-dire sur les lieux mêmes. Et les Izvestia, je vous cite leur article, le titre, Tinguely, l'artiste à la bombe atomique. C'est-à-dire qu'il montre qu'il a été financé par les Américains pour montrer leur grande puissance et que donc c'est d'abord c'est une manière folle d'affirmer la superpuissance américaine, etc. Donc vous voyez comment l'histoire de la sculpture va se faire. Et je termine en disant, puisque ça sera l'objet de ma conférence de la semaine prochaine, en disant qu'à partir de la fin des années 60, on voit que l'idée du dépassement de la sculpture moderne va se faire. Alors la question qui est posée, c'est la question, est-ce que la technologie, la machine, c'est la question que pose Jack Burnham dans son livre Beyond Modern Sculpture, qui date de 1967, paru à New York chez Brasiler. Il pose la question de savoir si des artistes comme Schoeffer, Nicolas Schoeffer, donc vous voyez une œuvre ici à droite, qui utilise la technologie, ne pourrait pas énoncer une nouvelle ère pour l'humanité. Alors, je vous montre, là, je reviendrai sur toutes ces images, hein. Je vous montrerai que cette question, finalement, de la cybernétique, du robot et de sa plus ou moins grande proximité à l'homme, va finalement relancer tout à fait le débat sur les rapports de la sculpture à la machine, au fétiche. Et je n'en veux comme exemple que quelque chose que je suis depuis quelques mois. Vous avez peut-être, quand vous avez visité le musée du Quai Branly, rencontré un étrange personnage. Ce personnage est un robot, il s'appelle Berenson. Il a été construit par l'université de Cergy et par un centre de recherche. Et il se balade, vous voyez, dans les salles du musée. Voyez, il enregistre simplement ce que les gens aiment. On peut lui dire j'aime telle sculpture, j'aime telle autre, ou il enregistre les mouvements de la bouche, hein. Là, c'est pas très fiable à mon sens, mais si vous êtes joyeux, moi je suis pas spécialement joyeux quand je vois une œuvre, mais l'idée c'est que il enregistre ce qu'aiment les gens, il se forme son goût. Et ensuite, il est capable de vous conduire. Alors, ce serait peut-être la fin, je ne devrais pas le dire devant Florence, je ne sais pas si elle est là, mais c'est un peu le. Non, ce serait l'outil qui serait complémentaire des services de médiation. Hein, parce que le robot, en fonction de ce que vous lui dites que vous aimez, et c'est comme dans Google Livre, vous avez aimé ça, vous aimerez ça, vous savez, sans arrêt. Vous êtes en train de lire un truc, on vous conseille des choses comme ça. Alors vous en avez marre. Sauf que lui, il est très marrant. Et ils l'ont appelé Berenson, parce que Berenson était un connaisseur américain qui a fondé la Villa Itati à Florence et qui avait un œil exceptionnel. Alors c'est l'idée, est-ce qu'une machine peut acquérir du goût? Chez Tinguely, il y a des machines qui travaillaient, qui dessinaient, qui peignaient. Est-ce que maintenant une machine peut acquérir du goût? Elle acquiert un goût statistique. Je l'ai vu fonctionner. Mais alors ce qui est très drôle, c'est que cette machine, eh bien, elle est à son aise au Quai Branly. Hein, parce qu'elle est au milieu des fétiches. Et on a l'impression que notre grande technologie, ça c'est le rêve de Kleist, du théâtre de marionnettes, notre plus grande technologie rejoint cette forme de primitivité, mais dans un bon sens, hein, dans un sens où, évidemment, l'humour est toujours présent. Hein. Alors c'est ce qu'on essayera de faire. J'ai un peu bâclé la fin, mais parce que je m'aperçois qu'on est assez tard quand même. Enfin, on a commencé tard. Hein. Puis j'avais dit que je laisserais quelque temps pour des questions. Voilà. Merci donc de votre attention. Je reviendrai sur peut-être un peu cette dernière partie que j'ai un petit peu accélérée vu le temps qui passait. Mais je suis disponible, bien sûr, pour quelques questions. Merci. Ou pas forcément des questions, peut-être aussi des remarques, des compléments, des prolongements ou.
À moins qu'on réserve ça pour la semaine prochaine,
Peut-être
pour un
aussi, hein,
final
peut-être
de questions.
aussi, hein, à moins que je sois retenu pour Woody Allen, mais ce coup-ci, je me méfierais. Voilà, bah écoutez, si j'ai, peut-être ça vient après, hein, si vous voulez. Puis c'est vrai qu'il est tard, et puis il faut savoir ce que Hollande nous a dit, parce que moi, je n'ai pas résolu beaucoup le problème de la crise. Hein.